Bien, chers auditeurs, bonjour. Au micro, c'est Guy Pruvot pour une nouvelle émission des Cahiers de l'Histoire. Et pendant cette phase-là où nous sommes bloqués par le Covid-19, eh bien, je vais évoquer deux épisodes dramatiques qui se sont passés au Québec. La première, et c'est ça qu'on va évoquer pour cette émission, c'est la tragédie aérienne de Saute-au-Cochon qui s'est déroulée en 1949. Et ce que je voudrais dire, c'est que c'est la première tragédie aérienne qui est due à l'éclatement d'une bombe, et c'est le premier attentat en Occident, je dirais, en dehors des périodes de guerre, qui s'est produit donc au Québec au 9 septembre 1949. Et alors, cette tragédie aérienne a fait 23 morts. Alors, le 9 septembre 1949, un DC-3 d'Air Rimouski, à l'époque c'était cette compagnie, qui ensuite a été intégrée à Québec Airways, et qui arrivait de Montréal, et qui décolle de son escale à l'aéroport de Sainte-Foy, à Québec. À 10h20 exactement, avec 5 minutes de retard. Et vous allez voir que ces 5 minutes de retard, eh bien, ont une certaine importance. À 10h45, c'est-à-dire 15 minutes plus tard, il survole la montagne appelée au Saut au Cochon, situé près du Cap Tourmente, à 65 km à l'est de la ville de Québec. Et c'est au moment où l'avion amorce son virage vers le fleuve qu'il se met à exploser quelques minutes plus tard. Les équipages de deux navires en transit sur le fleuve entendent l'explosion et voient des objets virevolter dans l'air, parfois même plus haut que l'avion lui-même. Et celui-ci s'écrase au-dessus du Cap Tourmente, à 3 km exactement de la voie ferrée, et là, des témoins donnent l'alerte. Alors, trois agents sont immédiatement envoyés sur les lieux, et après avoir monté le cap et s'être frayé un sentier dans les bois, eh bien, ils aperçoivent l'épave et les débris éparpillés tout autour. Tous les passagers sont morts sur le coup et sont amoncelés en avant et en arrière de la cabine. Il y a exactement 23 morts, dont 19 passagers. Et parmi eux se trouvent trois dirigeants de la Kennecott Copper Corporation de New York, qui sont également des cadres de la Québec Iron and Titanium et qui sont propriétaires de plusieurs mines sur la côte nord du Québec. Et tous ces gens, eh bien, se rendaient à Baie-Comeau, lieu d'escale de l'avion. Alors, le lendemain, la nouvelle va prendre une dimension internationale dans les journaux. N'oubliez pas, nous sommes en septembre 1949. Les autorités américaines réclament de leur côté une enquête rapide à cause du climat d'incertitude. En effet, certaines personnes se demandent si, dans le climat de début de guerre froide, il ne s'agirait pas d'un attentat terroriste qui serait relié au milieu communiste. Dès le 9 Deux experts, le 9 septembre, deux experts ingénieurs, Francis et Stanley Lynn, se sont rendus sur les lieux du crash afin d'examiner les débris de l'appareil et de tenter de trouver une explication à l'explosion. Pour ce travail méthodique, ils sont accompagnés de trois chimistes et de plusieurs techniciens. Et alors, ils découvrent rapidement que l'explosion a eu lieu dans la soute à bagages à l'avant gauche de l'appareil. des pièces de métal sont découvertes autour de l'avion qui aurait pu servir de détonateur. Alors, après quelques jours, eh bien, on en vient à la conclusion que l'explosion, effectivement, est due à la dynamite probablement placée dans un colis piégé que l'on a déposé dans l'appareil lors de l'escale de l'ancienne Lorette. La Sûreté du Québec enquête aussi et regarde de plus près les antécédents des passagers et de leurs proches. L'une des victimes se nomme Rita Morel, épouse d'un citoyen de Québec qui s'appelle Albert Gay. Et le matin même du crash, celui-ci avait contracté une police d'assurance à son nom de 10 000 dollars en cas de mort accidentelle. Le même matin, Marguerite Pitre, une amie d'Albert Gay, avait fait déposer dans l'avion un colis devant être livré à Baie-Comeau. Il était plus que probable, selon les enquêteurs, que ce colis, eh bien, aurait pu contenir la bombe. Alors l'enquête va progresser, et le 14 septembre, c'est-à-dire 5 jours plus tard, Edmond Chassé, correspondant du journal Le Canada de Montréal, suggère le premier qu'il pourrait s'agir d'un geste criminel, notamment orchestré par une femme. Alors Edmond Chassé remportera d'ailleurs le plus grand prix de journalisme au Canada, le National Newspaper Award du Toronto Press Club, pour son scoop dans cette affaire. Alors le 19 septembre, c'est-à-dire 10 jours plus tard, le petit journal de Montréal laisse filtrer l'information que la police s'apprête à arrêter une femme qui aurait apporté le colis dans l'avion. Le lendemain, Généreux Ouest, prénom et nom, Généreux Ouest, habitant le quartier Saint-Roch, à Québec, eh bien se présente à la police et déclare que c'est sa sœur Marguerite qui est allée le porter à l'avion et qu'il contenait une statuette devant être livrée à Baie-Comeau et qu'il s'agissait d'une commission de la part d'Albert Gay. Celui-ci avait effectivement donné rendez-vous le matin du 9 à la gare du Palais afin de lui remettre le bagage, ainsi que de l'argent pour payer le taxi et l'affranchissement de la livraison. Et en retour, eh bien, il acceptait d'annuler la dette de 600 dollars qu'elle lui devait. Alors le 23 septembre, jour de son 31e anniversaire, Albert Gay, accusé du meurtre de sa femme, ainsi que de 22 autres personnes, est arrêté à son domicile du quartier Saint-Sauveur. Et l'enquête préliminaire est fixée au 4 octobre. Ça va aller assez vite d'ailleurs. Alors, ce fameux Généreux Ouest, né le 14 juin 1900, et sa sœur Marguerite, le 5 septembre 1908, étaient les enfants d'Édouard Rouest et d'Adèle Ross. Ils sont tous deux nés à Saint-Octave-de-Métis, non loin de Montjoly. Mais on va revenir sur M. Albert Gay. Albert Gay, qui est né à Québec en septembre 1918, eh bien se faisait passer pour un bijoutier horloger, mais il n'était en réalité qu'un colporteur de montres. Il se querellait souvent avec sa femme et il était tombé amoureux d'une serveuse de restaurant de 17 ans, Marie-Angèle Robitaille, qu'il rencontrait dans une maison de chambre de Saint-Roch appartenant à Marguerite Pitre. Alors Marie-Ange, cette jeune femme de 17 ans, manifestait parfois le désir de le quitter car elle ne considérait l'avenir que dans le mariage. Et Gay décide alors de se débarrasser de sa femme. Comme le divorce est interdit par l'Église, et n'oubliez pas que nous sommes en 1949, et que l'Église est toute puissante au Québec, et que la demande d'un bill privé à Ottawa pour divorcer est extrêmement coûteuse, eh bien, il envisage tout simplement l'assassinat de son épouse. Son épouse légitime. Alors, il demande d'abord à une de ses connaissances de l'aider à l'empoisonner. Mais devant le refus de ce dernier, eh bien, il préfère s'y prendre autrement. Alors, c'est alors que lui vient l'idée d'envoyer sa femme en avion à Baie-Comeau et de faire exploser cet avion par une bombe qu'il y aurait préalablement placée. Alors, il demande d'abord à Marguerite Pitre, décidément bien naïve, d'acheter de la dynamite à la quincaillerie Samson et Giroux de Québec afin, affirme-t-il, de défricher un terrain boisé qu'il vient d'acquérir sur la côte nord. Il recrute ensuite Généreux Rouest, le frère de Marguerite, et bricoleur à 16 heures, afin qu'il lui fabrique une bombe à retardement avec la dynamite. Un mécanisme d'horlogerie et des piles de lampes de poche. Eh bien, Rouest, qui s'y connaît très bien en mécanique d'horlogerie, accepte de l'aider. Eh oui, il y a beaucoup de naïfs dans cette histoire. Et le matin du 9, eh bien, Gay achète un billet aller-retour Québec-Baie-Comeau pour sa femme, en plus de l'assurance-vie de 10 000 $. Puis, il rencontre Marguerite Pitre à la gare du Palais et lui remet la statuette contenant la bombe qu'elle doit emmener à l'avion. Et enfin, il accompagne sa femme à l'aéroport. Une dispute entre les deux fait subir, écoutez bien, chers auditeurs, une dispute entre les deux fait subir un retard de 5 minutes au décollage de l'avion. Et figurez-vous que s'il était parti à l'heure, eh bien cet avion aurait explosé au-dessus du fleuve. Et toute trace de preuve incriminant Albert Gay aurait disparu dans la mer. Seulement, il y a eu cette dispute et l'avion avait 5 minutes de retard. Ces 5 minutes ont permis à l'avion de sauter au-dessus de la terre ferme. Ceci est très, très important. Alors, le procès d'Albert Gay se déroule au palais de justice de Québec et débute le 23 février 1950. Des débris sont montrés comme pièces à conviction. Des experts et des connaissances de l'accusé témoignent. On met également en évidence le fait qu'un écrasement aérien a eu lieu dans des conditions à peu près identiques aux Philippines quelques mois auparavant. Et le 14 mars, Gay est déclaré coupable et doit être pendu le 23 juin. En juin, Gay réussit cependant à gagner du temps et passe à ses propres aveux. Il accuse Marguerite Pitre et Généreux Rouest d'avoir substitué à son propre colis un autre paquet contenant l'engin explosif. Et comme les policiers semblent plutôt sceptiques, eh bien, il déclare que ses complices étaient au courant de toute la machination et qu'il est prêt à témoigner contre eux à un éventuel second procès. Alors, cela pourrait être considéré comme un stratagème pour lui faire gagner du temps et ainsi obtenir un sursis avant d'être pendu. Mais les policiers décident de ne pas prendre de risques. Et le 6 juin, eh bien, Généreux Rouest est arrêté. Et 8 jours plus tard, sa sœur Marguerite l'est à son tour. Rouest est jugé en novembre. Il admet avoir fabriqué la bombe, mais nie avoir été au courant des véritables intentions de Gay. Et celui-ci lui avait fait croire vouloir défricher son terrain à Baie-Comeau. Et malgré le manque de preuves, il est reconnu coupable de meurtre le 13 décembre. Le procès de Marguerite Pitt se déroule, lui, du 6 au 16 mars 1951. Encore plus que généreux Rouest, elle est victime de l'acharnement des procureurs de la couronne qui la traitent comme une manipulatrice de premier ordre. Et en réalité, elle n'est que naïve et très, très peu intelligente. Elle aussi est la cible de la vindicte de la populace qui la croit aussi coupable qu'Albert Gay. Alors, Albert Gay, il est finalement pendu à la prison de Bordeaux. C'est pas Bordeaux en France, c'est Bordeaux à Montréal, un quartier. Et le 12 janvier 1951, exactement. Et vous savez que ses derniers mots ont été eh bien, il est mort en disant « Eh bien, au moins, je meurs célèbre. » Généreux Rouest, 52 ans, est malheureusement pendu à son tour le 25 juillet 1952, malgré la tuberculose osseuse dont il est atteint depuis des années. Et enfin, le 9 janvier 1953, Marguerite Pitre, 44 ans, devient la dernière femme à être pendue au Canada. Eh bien, chers auditeurs, voici la terrible histoire, et je dirais même le terrible réquisitoire durant ce procès contre des personnes qui apparemment n'avaient rien à voir avec cet attentat. Mais la justice en avait décidé différemment et il y a eu effectivement 3 personnes de pendues. Bien, j'espère que cette histoire vous aura passionné et maintenant vous pouvez aussi prendre des informations complémentaires sur cette tragédie aérienne, je vous rappelle, de Saute au cochon en 1949. Eh bien, merci de votre écoute et à très bientôt pour une autre histoire.